L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission, le magazine de Radio Évasion, avec un invité qui voyage. C'est son métier, ou plutôt il fait voyager les autres. Il travaille pour Salin Holidays, dont le siège est toujours à Pont-de-Buis, même si le voyagiste a beaucoup grandi ces dernières années et ses agences parsèment la France. Alors bien sûr, en ce moment, c'est plutôt délicat de voyager, voire carrément impossible. En tout cas, en ce qui concerne les voyages d'agrément, le chiffre d'affaires a sombré de 90%. En attendant la reprise, Salin se réorganise, confronté donc à cette chute. Le groupe vient de nommer Nicolas Delors, l'ancien président de Thomas Cook France, qui dirige désormais donc le voyagiste. Et pour attirer ses clients, Salin Holidays a même lancé des échanges de 2 heures en direct sur son site internet et les réseaux sociaux. Bonjour Étienne Lescope.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Technicien de production chez Salin Holidays, enfin plus exactement sa filiale Pushkin Tour. Alors déjà, un technicien de production en voyage, qu'est-ce que c'est ?
Alors, un technicien de production voyage, c'est un créateur de voyage. Donc, comme n'importe quel métier, il a besoin de matériaux. Le jardinier aura sa pelle et son râteau. Le créateur de voyage, lui, aura besoin d'un avion et d'hôtel pour faire voyager ses clients. Bien entendu, des guides qui sont sur place et des musées qui soient ouverts sur les pays dans lesquels on le va. Donc, c'est organiser tout ça pour proposer aux gens des voyages clés en main ou sur mesure, selon leur choix et leur volonté aussi.
Et votre territoire à vous, c'est quoi quand vous organisez des voyages? C'est sur quel espace exactement?
Alors exactement la Russie et tous les pays d'ex-URSS. Donc même l'Asie centrale avec l'Ouzbékistan sur la route de la soie, les Pays-Baltes, Roumanie, Bulgarie et vraiment la Russie qui, elle, est déjà un territoire très vaste.
Et en temps normal encore, tout est accessible. Enfin, est-ce qu'il y a des pays qui sont complètement fermés, dans lesquels on ne peut pas envisager de faire du tourisme?
Alors malheureusement, à ce jour, du fait de la pandémie, les voyages sur la Russie sont fermés, bien évidemment. Après, certains pays de l'Union européenne sont toujours accessibles, mais c'est vrai que la vaccination s'accélère. Et c'est un point qui est positif pour l'avenir et l'ouverture des frontières à venir, peut-être au courant de cet été, pour la plupart des pays, déjà dans un premier temps.
Et sinon, pour des raisons indépendantes de la pandémie, pour des raisons politiques, est-ce qu'il y a des pays d'Asie centrale, par exemple, qu'on ne peut pas visiter
On peut aller dans tous les pays d'ex-URSS sans aucun problème. Après, certaines zones frontalières sont particulièrement évitées, mais on ne crée pas des voyages sur des zones déconseillées par le Quai d'Orsay, bien évidemment.
Quand vous créez des voyages, alors comment ça fonctionne plus précisément? Enfin, combien vous en créez par exemple par an et puis quels sont les critères?
Alors il faut déjà choisir les destinations dans un premier temps, parce que la Russie, c'est vrai que c'est le plus grand pays au monde, mais 90% du tourisme sur le territoire se concentre sur Moscou et Saint-Pétersbourg. Donc déjà il faut prendre ça en compte. Il y a plusieurs manières de voyager. On peut voyager en autocar, on peut voyager sur des bateaux, on peut voyager en train également. Donc, c'est des critères qui se définissent comme cela.
Donc, Pushkin Tour propose tous ses moyens de transport?
Pushkin Tour propose tous ses moyens de transport sur place en Russie. Et puis, bien sûr, le départ du voyage se fait au départ de chez soi. Pour certains, le voyage se fait dès qu'ils passent le pas de la porte. Pour d'autres, c'est lorsqu'ils vont arriver à destination dans leur pays. Créer un voyage, c'est justement le voyage, c'est le déplacement dans l'espace. Et puis nous, on est là justement pour organiser ce déplacement de la personne au départ de chez elle jusqu'à son voyage qui va durer 1-2 semaines ou plus selon le type de choix.
Et donc, combien de voyages en gros vous êtes vous concevez? Parce qu'en fait, j'imagine qu'une fois que vous avez conçu un voyage qui marche, vous vous amusez pas à le réinventer chaque année.
Alors ça se réinvente pas chaque année. On a sur le catalogue Pushkin Tour 180 pages de voyages déjà.
Pages
de voyages.
Ça veut dire pas 180 voyages, ça veut dire plus que 180 voyages.
Ça veut dire 70 à 80 voyages possibles, ah ouais, en théorie, sur la brochure, et qui vont du simple séjour à Moscou pendant 4 jours jusqu'à un voyage en transsibérien de 19 jours en traversant la Russie, les steppes d'Asie centrale jusqu'à la Chine à Pékin.
Ah oui, le transsibérien, ça c'est un train qui appartient à quelqu'un, à qui il appartient en fait?
Alors le transsibérien, ce n'est pas un train, contrairement à l'idée qu'on peut en avoir, c'est la ligne de chemin de fer entre Moscou et Vladivostok, en Russie, à l'extrême-orient, au niveau du Pacifique. Et sur cette ligne de chemin de fer circulent tous les trains, donc les trains privés pour les touristes, les trains de marchandises pour le fret également, et les trains réguliers où la population locale utilise justement pour se déplacer, voir sa famille ou pour le travail. Et on peut aussi greffer des voyageurs justement pour rencontrer les gens et découvrir justement toutes ces régions et républiques différentes qu'il y a en Russie.
Et donc quand vous proposez un séjour transsibérien, c'est combien de temps déjà
Alors déjà, si on peut le faire d'une seule traite de Moscou à Vladivostok, il faudrait 7 jours et 7 heures pour le faire sans sortir du train. Alors bien évidemment, peu de gens sont intéressés par cela. Donc on fait des divers trains, si vous voulez. On peut partir de Moscou et s'arrêter à Yekaterinbourg, visiter la ville. On dort sur place et puis le lendemain, on va reprendre un train pour découvrir une autre ville et ainsi de suite tout au long du parcours. Donc on peut vraiment créer le voyage que l'on souhaite, nous, en tant que producteurs de voyage, dans ce sens.
Pushkin Tour n'a quand même pas été jusqu'à acheter des trains. Je suppose que vous faites appel à des compagnies là-bas.
Bien sûr, les trains appartiennent à RGD, qui est la SNCF russe, du coup, qu'on peut affréter selon le nombre de voyageurs, par exemple.
Et ils sont comment, ces trains ?
Alors, on a des trains classiques. Les trains réguliers sont d'un confort sommaire. Hein. C'est assez petit. Un train n'est pas extensible, donc il ne faut pas s'attendre non plus à un hôtel 5 étoiles. On peut justement rencontrer la population à bord de ces trains. Vous avez des WC et des lavabos qui sont à chaque extrémité de wagon. Donc c'est pour ça que les nuitées à l'hôtel et les nuitées dans le train sont alternées tout au long du parcours. Mais vous avez aussi des trains supérieurs, comme je le disais tout à l'heure, qui sont privés pour les touristes, où là on a vraiment des lits parfois qui sont doubles avec une vraie cabine de douche à l'intérieur. Le budget n'est pas le même, le sens du voyage non plus.
Vous faites, en fait, on comprend que Pushkin Tour fait vraiment quasiment du sur-mesure. En fait, on peut dire, bah voilà, moi je voudrais aller en Russie, je veux ça, 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 et puis vous le faites en gros.
Tout à fait, on fait principalement pour des groupes qui sont constitués. On peut le faire pour des associations, mais aussi on peut faire du sur-mesure pour quelqu'un qui veut aller découvrir, je ne sais pas, une usine à Tcheliabinsk, ou quelqu'un qui veut partir dans l'espace, découvrir les fusées Soyouz, etc. Donc on peut vraiment absolument tout faire. On a eu des clients qui sont déjà allés dans l'espace grâce à Pushkin Tour il y a quelques années, par exemple.
Vos clients sont essentiellement français ou européens ou...
Français, belges, on a aussi quelques Suisses, mais oui, ce sont des voyages francophones, puisque les voyages sont accompagnés par des guides francophones sur place.
Et en temps normal, ce sont combien de voyageurs par an qui profitent de vos voyages ?
Sur la Russie et l'ex-URSS, environ 15 000 par an.
Et pourquoi est-ce que c'est Moscou et Saint-Pétersbourg qui sont les destinations essentielles en Russie ? C'est une question d'infrastructure hôtelière ou de choix des clients ou les deux ?
Pas une question d'infrastructure hôtelière, c'est surtout une question d'intérêt culturel et puis aussi sans doute une question de proximité. La Russie est tellement immense, Moscou, Saint-Pétersbourg, on se l'imagine loin, mais c'est aussi proche qu'Athènes. Hein. Vous avez seulement 3h30 de vol pour vous y rendre. Et puis c'est vrai que Saint-Pétersbourg, c'est une ville avec des centaines de palais, aussi intéressante culturellement et physiquement que Paris, par exemple. Et ce sont des villes qui sont toutes les deux entièrement différentes. Saint-Pétersbourg, c'est la ville culturelle par excellence, qui a été construite par Pierre le Grand. Et Moscou, c'est la ville russe, la ville soviétique. C'est vraiment l'âme slave qu'on y trouve à Moscou.
Eh bien, je lis en fait entre ce que vous me dites que y a la ligne éditoriale de Pushkin Tour. Je ne sais pas si on peut parler de ligne éditoriale pour un voyagiste, mais ça serait le voyage culturel avant tout, parce que c'est ça, c'est du voyage urbain déjà, non ?
Alors pas forcément du voyage urbain, oui, si on visite les villes de Saint-Pétersbourg et de Moscou, mais c'est vrai que l'accent est mis sur les visites qui sont faites sur place, qui sont culturelles. Donc sur place, on va visiter des musées, par exemple le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, c'est le plus grand musée au monde. Vous avez 3 millions d'œuvres d'art qui sont au sein de ce musée. Donc on découvre vraiment des lieux culturels qui sont emblématiques, historiques et fascinants. On peut aussi, en dehors de Moscou et de Saint-Pétersbourg, découvrir les petits villages de l'Anneau d'Or autour de Moscou, qui ont été un jour ou l'autre capitale de la Russie. Et là, on est vraiment dans la campagne de la Russie. Mais on peut aussi aller jusqu'en Sibérie, au milieu de la planète, et découvrir les grands espaces, la taïga, la toundra, par exemple.
Comment ça, ces petits villages ont été capitale de la Russie ? Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Alors, Moscou, si vous voulez, Moscou possède le Kremlin. On connaît le Kremlin. Le mot Krem, en russe, ça signifie forteresse. Et c'est le siège, déjà, de la Douma, du Parlement de Russie. C'est là qu'est le président, Vladimir Poutine, et c'est aussi le siège de l'orthodoxie. Mais avant, ce n'était pas Moscou la capitale. Il y a eu plusieurs villes de Russie qui ont été capitales, et c'était des villes princières dans le passé, comme Yaroslav, par exemple, et chacune de ces villes autour de Moscou, qui ne sont pas même des villages, hein, maintenant Yaroslav, c'est 600 000 habitants, par exemple, possède son Kremlin. bien. Donc ces forteresses, un peu comme nos châteaux forts, nous, à l'époque. Paris n'a pas toujours été capitale d'un grand pays comme la France. Eh bien, c'est pareil pour Moscou.
Et elle ressemble à quoi en termes de typologie, de topographie, pardon, ces petites villes, enfin ces villages?
Alors, on sort de Moscou pour se rendre dans ces villes. Donc, c'est vrai que vous avez une architecture qui est assez intéressante. Quand vous voyez, par exemple, même sur Moscou, la basilique Sainte-Basile-le-Bienheureux avec tous ses bulbes. Bon, on peut penser parfois à Disneyland maintenant avec les Américains. Mais vous avez toute cette architecture vraiment slave et russe qui est très présente sur place. Et puis, c'est assez clinquant, un peu m'as-tu vu des couleurs assez fastueuses, et même à l'intérieur des cathédrales avec leurs grandes iconostases, c'est tout simplement fabuleux.
Et c'est comment? C'est vallonné? C'est plat? Je ne me représente pas trop, en fait.
Ça reste plat, hein, du côté de Moscou. Même Saint-Pétersbourg, hein, c'est construit initialement sur des marécages. Donc cette zone principale est une zone assez plate. Si on veut voir les montagnes, les hautes montagnes, il faut dépasser l'Oural vers Yekaterinbourg.
Mais de toute façon, voilà, Pushkin Tour ne propose peut-être pas des treks, enfin des séjours plus sportifs, si, éventuellement
Alors, ce n'est pas ce qui est le plus demandé, bien évidemment, ce sont les séjours circuits culturels dont on parlait tout à l'heure, mais on peut très bien organiser des treks en Mongolie, par exemple, ou de la pêche dans les lacs de Mongolie. On a des randonneurs, des plongeurs sous la glace dans le lac Baïkal aussi, également.
Et alors, une préparation de voyage, j'imagine que c'est très variable selon le type de voyage, mais combien de temps ça peut vous demander? Puis qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous dites que vous prenez l'avion, ok, mais bon.
Alors oui, ça demande du temps parce que déjà, il faut savoir quel avion on prend. Est-ce qu'on veut un vol qui est direct, qui va partir de Paris à Moscou? Est-ce qu'on veut un vol avec escale? Il faut comprendre aussi le budget du client. Il faut choisir l'hôtel en fonction du circuit que l'on va proposer, le nombre de visites, établir les plannings aussi également. Donc ça dépend vraiment de si c'est un voyage sur la brochure, c'est un travail qui va être fait sur plusieurs mois, mais qui va être, on va dire, rentable entre guillemets sur toute l'année. On n'aura pas à retravailler ce programme-là. Tandis que le côté sur mesure, où nous avons beaucoup de demandes, là, ça demande des heures de travail chaque jour pour un projet d'une personne en particulier.
Qu'est-ce qu'il faut pour devenir comme vous, donc Alors, je redis hein, l'intitulé exact, c'est technicien de production de voyage en Russie.
Non, c'est ça, technicien de production sur la Russie. Alors moi, j'ai un BTS tourisme, donc il suffit simplement d'un BTS tourisme, mais il faut aussi, quand on naît sur une destination particulière spécialisée, avoir une grande motivation pour ce pays et aimer ce que l'on fait. Parce que si on n'aime pas le pays que l'on produit, eh bien, ça se ressentira aussi sur vos programmes. Donc c'est vrai que c'est une motivation supplémentaire de vendre et de créer des voyages sur la Russie quand on est déjà passionné par la destination. Donc moi, j'ai un BTS. Après, certains de mes collègues ont des masters, par exemple, d'histoire ou de géographie.
Et vous, quel était votre lien donc avec la Russie et puis l'Est en général, hein, peut-être?
Alors, des petits, en fait, j'ai la chance de jouer aux échecs. À titre personnel, à loisir, dans le club de Brest. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs autres joueurs de ces pays-là, parce que c'est vrai que les échecs sous l'Union soviétique, c'était le sport national par excellence. Et ça m'a permis justement d'avoir ces premiers contacts, pas forcément avec la Russie, mais avec l'Est, on va dire. Et grâce à mes parents, j'ai aussi un peu voyagé en Roumanie, en Bulgarie, et puis après, tout seul, je suis parti découvrir la Serbie, par exemple, et d'autres pays, et enfin, la Grande Russie.
Quand est-ce que vous avez découvert la Russie en premier, enfin en vrai?
Il y a 8 ans déjà, quand j'ai commencé le travail. Donc je m'y suis rendu pour la première fois sur Moscou, sur Saint-Pétersbourg, dans le nord de la Russie, sur les îles de Kiji en Karélie, qui est juste en face de la Laponie par exemple. Et puis j'ai aussi parcouru la Russie en transsibérien, jusque la Sibérie, jusque la Mongolie et même à Pékin après, oui.
Et quels ont été vos coups de cœur, par exemple?
Coup de cœur, j'aime beaucoup la ville de Yaroslavl, qui est à l'est de Moscou, justement, qui est une ancienne capitale de la Russie. Elle est plus calme que Moscou, mais elle est aussi très agréable et jolie à vivre, cette ville. Et c'est vrai que lorsqu'on est aussi en transsibérien, on parcourt toute une forêt de bouleaux sur des milliers de kilomètres, et ça donne du temps au temps. Et on a le temps de s'ennuyer dans ce train, de découvrir le paysage, et le voyage, c'est aussi appréhender le temps dont on dispose et comment on veut découvrir un pays.
Et j'imagine, mais peut-être ai-je tort, que vous avez dû apprendre le russe.
Alors, je ne parle pas russe. J'arrive à comprendre, bien sûr, quelques mots et à me dépatouiller de quelques mots en parlant. Mais on a nos bureaux aussi qui sont sur place en Russie, donc ça facilite le travail. Et la plupart de mes collègues aussi sont aussi russes eux-mêmes. Donc, ça facilite les échanges. Après, bien sûr, il y a une partie de travail qui se fait en anglais, qui est la langue internationale aussi des voyages.
Mais c'est ça. En fait, quand même, pour faire votre métier, il faut à minima parler anglais, j'imagine.
Tout à fait, effectivement.
Ouais. Mmh. Et donc, alors, vous avez, donc en ce moment, vous avez du temps. Donc, est-ce que vous envisagez quand même d'autres voyages ou est-ce que pas du tout
Bien sûr, ce n'est pas parce que les frontières sont fermées que les voyages ne seront plus accessibles éternellement. C'est vrai que c'est un bien essentiel, le voyage. C'est la possibilité de se déplacer, loin. Donc, effectivement, nous créons quand même les voyages. Nous avons créé les voyages pour 2021. Et pour 2022 également. Donc, bien sûr, le travail ne s'arrête pas. Il y a toujours des voyages à monter. Simplement, il faut juste attendre l'ouverture des frontières.
Qu'est-ce que vous avez proposé de nouveau, par exemple ?
Alors, de nouveau, il y a toujours des nouveautés. Même que ce soit dans un circuit, on peut rajouter une visite ou on peut avoir des nouveautés de voyage. Par exemple, il y a quelques années, on a monté la Géorgie ou l'Azerbaïdjan, le Grand Tour du Caucase. Chaque année, il y a des nouveautés de destination, pas forcément de pays, hein, parce qu'on les propose tous, mais des nouveautés de circuit ou de séjour, effectivement.
Et le Grand Tour du Caucase, par exemple, c'est combien de temps ?
Le Grand Tour du Caucase, c'est un voyage qui dure, par exemple, une quinzaine de jours. Vous avez l'occasion de découvrir justement ces pays qui sont au sud de la Russie, au nord de l'Iran, hein, vraiment la région montagneuse du Caucase, avec l'Azerbaïdjan, où vous allez passer 4 à 5 jours. Vous avez aussi la Géorgie et l'Arménie. Donc, c'est vraiment trois pays culturellement différents, de religions différentes, d'architectures et de cultures différentes, qu'on a l'occasion de découvrir sur 15 jours. Alors, vous parcourez environ 200 km quotidiennement pour découvrir ces pays.
Oui, donc c'est plutôt en car, là, en l'occurrence. Enfin, ouais,
tout à fait. La plupart des voyages se font en autocar pour se déplacer, parce que déjà, les participants sont une vingtaine par car, grosso modo. Donc, les déplacements se font par car, en dehors des croisières et des transsibériens, bien sûr. Les étendues sont tellement immenses qu'il faut des moyens de transport.
Et je ne sais pas si vous êtes en mesure de me le dire, d'ailleurs, mais est-ce que ça représente quelle proportion des voyages de l'ensemble du groupe Salin, les voyages vers l'Est ou la Russie, enfin,
Alors, la Russie, l'ex-URSS, c'est la destination numéro 1, la Russie, chez Salin Holidays, donc pour Pushkin Tour. Et on est aussi leader en France sur le marché Russie et ex-URSS. Donc, 15 000 clients sur la Russie et l'ex-URSS. Et c'est 260 000 clients en tout pour Salin Holidays, y compris aussi les voyages scolaires, les voyages au Vietnam, sur tout le globe, hein, en fait, on peut faire voyager.
Donc, il y a des voyages scolaires aussi qui se font vers la Russie
Beaucoup moins, parce que ça représente quand même un certain budget de se rendre en Russie. Hein. Ce n'est pas le voyage le moins onéreux. Donc, il y a peu de voyages scolaires qui se font sur la Russie. Ça reste plus concentré sur l'Union européenne, bien sûr.
C'est quoi le minimum pour aller faire un voyage en Russie
On peut partir pour environ 700 euros pour faire un week-end à Moscou de 4 jours, si on prend un bel hôtel. Après, tout dépend aussi du budget que l'on veut mettre. On peut partir dans une auberge de jeunesse 3 jours en prenant un vol avec 2 escales et s'en sortir pour 400 euros, ou on peut partir sur un hôtel 5 étoiles juste sur la place rouge pour 1500 euros. Ça dépend du choix, du budget, du temps qui est consacré, de la volonté de ce qu'on veut voir aussi sur place.
Tout est possible en fait.
Tout est possible.
et qu'est-ce que vous diriez justement alors, sur la Russie à quelqu'un qui ne connaît pas du tout, qui n'a aucune idée de ce que ça peut être? Qu'est-ce que vous diriez justement pour donner à la fois pour rassurer peut-être, parce que peut-être que ça fait peur, je ne sais pas, et puis pour donner envie
Alors c'est vrai que l'image qu'on a de la Russie, elle est véhiculée comme tous les autres pays par les médias. Donc on n'y va pas, on ne sait pas, on ne connaît pas. Donc c'est vrai que ce que l'on entend de la Russie, c'est le gouvernement, peut-être même Alexandre Navalny en ce moment, qu'on entend régulièrement. Après, on ne va pas dans un pays par rapport à son gouvernement. Vous avez des personnes qui ne vont pas aller dans tel ou tel pays par rapport à leur gouvernement. C'est très peu le cas maintenant. Donc, il ne faut pas avoir peur de la Russie, comme on l'entend avec la guerre mondiale qu'il y a eu, la guerre mondiale avec la guerre froide plutôt, à l'époque. Maintenant, les tensions, elles se sont quand même beaucoup apaisées dans le monde par rapport à cela. La Russie est un pays où les gens sont très accueillants, très ouverts d'esprit. C'est aussi une image qu'on n'a pas forcément du russe, mais vous savez, en Russie, il y a 23 fédérations, 23 républiques différentes. Vous avez des républiques qui sont musulmanes, comme la Tchétchénie, par exemple, on n'y pense pas, mais c'est une république autonome au sein de la Russie. Vous avez des républiques bouddhistes, comme la Bouriatie, au nord de la Mongolie, et même des républiques juives. Donc, c'est vrai que c'est un pays qui est beaucoup plus ouvert que ce qu'on ne peut penser. Et c'est plusieurs Russie dans la Russie elle-même. Donc, c'est un pays avec des cultures entièrement, entièrement variées, entièrement différentes. Et les Russes sont toujours ravis, justement, de voir des, surtout des Français. Parce que
oui, il y a des liens historiques. Ouais. Parlez-nous de ces liens historiques.
Il y a des liens historiques entre la France et la Russie. Ça a commencé déjà à l'époque de Pierre le Grand, la fondation de Saint-Pétersbourg en 1703. C'était déjà pour avoir un pied face à la Suède, qui était quand même un royaume important à l'époque, et puis d'avoir un rayonnement culturel. Pierre le Grand est venu plusieurs fois en France, il a découvert le palais de Versailles, et justement, à ce retour en Russie, il a construit le palais de Peterhof à Saint-Pétersbourg, qu'il voulait aussi majestueux que Versailles, et on peut dire qu'il a, il a réussi son pari, parce que c'est assez, assez magnifique. Et puis, lorsque vous regardez toutes ces villes de Paris, de Florence, de Saint-Pétersbourg, c'est des villes qui comportent énormément de palais, et ce sont pour la plupart les mêmes architectes, hein, comme Rastrelli ou Montferrand, qui les ont construits. Donc il y a beaucoup de similitudes entre ces pays.
On dit que la Russie, enfin, surtout en ce moment, est un pays très pauvre. Enfin, est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti
Ce n'est pas un pays très pauvre, c'est un des pays les plus riches de la planète. Moscou, c'est la ville la plus chère au monde, ça faut le savoir aussi également. Après, vous avez des zones qui sont bien sûr plus pauvres parce que plus reculées, comme certaines régions de Sibérie. Lorsque vous êtes tout à l'est, au nord-est de la Russie, où il fait moins 40, moins 50 degrés l'hiver, il est compliqué de pouvoir cultiver la terre, par exemple, et il y a très peu d'habitants, donc vous avez des nomades. Donc effectivement, vous avez des zones qui sont moins peuplées et moins riche, mais vous avez aussi à Moscou un quartier d'affaires, Moskva City, qui est beaucoup plus grand que la Défense à Paris. Donc la Russie est un pays riche culturellement, mais même en termes d'économie, une économie qui reste assez quand même solide sur le long terme.
Ah oui. Ouais, parce que c'est vrai que parfois on se demande comment va la Russie en ce moment.
Elle nous apporte du gaz, donc déjà ça marche très bien de ce côté-là. Mais la Russie va très bien économiquement actuellement, même s'il y a quand même des sanctions de l'Union européenne qui sont assez régulières et vice-versa. La Russie est un pays qui remonte toujours
qui rebondit
toujours, tout à fait.
Et qui attire les Français. Donc, enfin, en tout cas, ouais, si c'est la première destination chez Salins, ça veut dire quelque chose aussi. Quoi,
tout à fait. C'est un pays qui attire les Français, qui n'est pas ouvert depuis 40 ans non plus. Hein. Ça fait depuis la chute de l'URSS, c'est un nouveau pays, la Russie. Ce n'est pas un pays qui est très ancien, entre guillemets, fédéralement parlant, mais c'est un pays qui attire de plus en plus de Français chaque année.
Et pourquoi, à votre avis, ouais, cet engouement?
Pourquoi cet engouement
c'est
de la Russie?
C'est juste la nouveauté, c'est pas que la nouveauté.
Ah, c'est pas que de la nouveauté, c'est un pays qui existe depuis longtemps, bien évidemment, mais les gens ont envie de découvrir ce pays. L'image, peut-être, s'est adoucie aussi dans les médias par rapport à la fin de l'URSS. Ça s'est quand même adouci, c'est très sécurisé sur place, donc il n'y a aucun problème pour se déplacer. Vous avez aussi, justement, des vols quotidiens au départ de France pour s'y rendre. Donc tout cela, le transport aérien, facilite aussi la découverte d'un pays, et puis on peut y aller sans aucun problème sur place. Vous avez besoin d'un visa, bien évidemment, pour vous y rendre, mais les démarches sont assez faciles à effectuer pour s'y rendre.
Il y a notamment en Russie un autre Brest-Litovsk, c'est ça?
Alors, c'est pas exactement en Russie, on n'est pas très loin, c'est en Biélorussie, la Russie blanche. Brest-Litovsk, oui, qui est en Biélorussie.
Ça fait partie de votre territoire? Vous proposez des voyages là-bas?
Alors, ça fait partie de la zone, justement, que l'on propose en Biélorussie. Sur Brest-Litovsk, il y a une forteresse qui est assez intéressante à voir, mais c'est vrai que la Biélorussie reste un pays un petit peu méconnu, peut-être le plus méconnu d'Europe. Néanmoins, on a des voyages sur la Biélorussie où on peut découvrir la capitale Minsk ou des villages comme Katyn, Mironiazvich, qui sont classés par l'UNESCO et qui sont assez remarquables aussi.
Et quels sont les voyages que vous n'avez pas encore pu créer, mais que vous aimeriez à l'avenir proposer à plus ou moins long terme?
Il n'y a pas de voyage qu'on ne peut pas créer. Après, il y a des voyages qui sont rendus impossibles, par exemple, de fait de guerre, entre guillemets, entre certains pays. Par exemple, la Crimée. On ne peut pas envoyer de Français en Crimée. Avant, la Crimée appartenait à l'Ukraine. Puis, il y a eu quelques incidents diplomatiques entre les deux pays, ce qui fait que la Crimée est russe, mais non reconnue par l'Union européenne. Donc, c'est un voyage qu'on proposait avant, qu'on ne peut malheureusement plus proposer. On espère qu'un jour, on pourra renvoyer des clients pour découvrir la Crimée avec Sébastopol et Simferopol.
Et d'autres destinations que vous aimez bien et que vous aimeriez proposer
Alors le Caucase, on propose de plus en plus de voyages sur le Caucase qui intéresse beaucoup de gens, l'Arménie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, qui s'ouvre aussi au tourisme hein, depuis la chute du rideau de fer. Mais l'Asie centrale aussi, on fait beaucoup de voyages sur l'Ouzbékistan, sur la route de la soie et la Mongolie peut-être. On aimerait faire plus de voyages dessus, mais c'est un pays qui est assez éloigné. Il faut prendre des vols avec escale, ça demande du temps. Donc c'est des pays que les gens ne vont pas voir en premier, ils vont découvrir peut-être la Russie d'abord et puis au fur et à mesure ils vont s'intéresser à ces pays d'Asie centrale.
Ouais, bah je pense qu'on fera une émission sur l'Asie centrale parce que c'est quand même une zone, je pense, qui est très méconnue. Enfin, les gens, vous la connaissez quand même.
J'ai la chance de connaître certains pays d'Asie centrale, oui, mais c'est vrai que c'est très méconnu. Les infrastructures routières sur place sont assez délicates. Néanmoins, ça n'empêche pas le voyage. Mais effectivement, il ne faut pas raisonner en termes de kilomètres par heure. 50 kilomètres, ça va représenter par exemple 3 heures de route sur des pistes qui ne sont pas goudronnées dans les steppes de Mongolie. Donc, il y a beaucoup d'espace à voir, mais qui sont difficilement atteignables aussi.
Et puis ça dépend peut-être des saisons aussi, j'imagine.
Il y a toujours la saisonnalité, même en Union européenne. Hein, si vous allez en Grèce, les gens vont plutôt y aller en juillet-août qu'au mois de décembre. Et bien pour la Russie ou l'Asie centrale, effectivement, c'est la période la plus propice, c'est de mai à octobre, effectivement.
Bon, mais on espère qu'on pourra
et
un
on pourra
jour.
Bientôt.
Merci Étienne Leskov, vous reviendrez donc nous faire voyager comme ça par les ondes.
Merci
à bientôt.
À vous.